Le terme de mythe vient du grec ancien mythos, soit la parole qui se transmet. Cependant, le sens du mot diffère selon l'époque. Dans la Grèce archaïque, mythos veut dire parole d'autorité. Mais dans la Grèce classique, le mythos, c'est le bouche à oreille. Soit un récit fabuleux, imaginaire, un récit qui ne fait pas autorité. Nous sommes Lison,
Noémie,
Inès,
Antoine.
Et vous écoutez Mytho, votre émission qui parle de mythes et qui en débunke certains.
À Pénélope.
Vous avez sûrement déjà entendu parler d'Homère, le célèbre poète, auteur de deux épopées, l'Iliade et l'Odyssée, des œuvres mythiques qui ont parcouru l'histoire avec un grand H, et dont on crée encore des œuvres dérivées de nos jours. Oui, c'est bien de cet Homère dont nous allons vous parler aujourd'hui, et pour la faire courte, Homère n'a jamais existé.
Alors, qu'on se le dise d'emblée, la question homérique, donc le terme qui désigne les études remettant en question l'existence d'Homère, est un débat purement moderne. Pour les anciens, c'est-à-dire les Grecs environ du 8e siècle avant Jésus-Christ aux Romains du 2e siècle après Jésus-Christ, la véracité de l'existence d'Homère n'était même pas envisagée tant sa figure historique est ancrée dans la société antique. Dans toutes les sources que nous avons sur cette très vaste période, Homère est perçu comme un naède, donc l'équivalent d'un poète, fondateur des mythes et de la culture grecque. En effet, ses poèmes L'Iliade et l'Odyssée font référence à l'âge des héros et servent aux anciens à fixer leur panthéon et leurs coutumes. Cependant, même si la figure d'Homère en elle-même n'est pas discutée, les Grecs ne croient pas naïvement à tout ce que le poète raconte. D'ailleurs, Paul Vane aborde cette question dans son essai « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» Et selon lui, les épisodes abordant des phénomènes magiques, tels que les cyclopes, ne sont pas suivis aveuglément par les Grecs. Mais dans tout cela, nous sommes amenés à nous demander qu'est-ce qui a servi d'élément déclencheur pour douter de l'existence d'Homère. Quand est-ce que ce questionnement a commencé ? Pour amorcer une réponse à ces questions, je finirai simplement par dire que, comme l'évoque Pierre Vidal-Naquet dans Le Monde d'Homère, déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ, le poète latin Horace disait, et je cite, « qu'il arrivait parfois au bon Homère de roupiller ». Pour les latinistes d'entre nous, « candoque bonus dormitat Homerus ». Rapport au fait qu'Homère était parfois inférieur à lui-même dans la création de ses vers.
Chose très intéressante, dans la Théogonie d'Hésiode, on trouve le verbe « homerosai ». Et il se trouve que ce verbe-là, il veut dire « faire son Homère ». Et c'est assez étrange parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Hésiode, il vit à peu près à la même période qu'Homère, et donc ce serait étrange que, comme ça, il introduise dans sa poésie un verbe absolument sorti de nulle part, qui fasse référence à une personne qui n'existe pas, et qui pourtant, on le suppose, aurait vécu à la même période. Et donc ça, c'est vraiment une piste qu'on peut évoquer pour se demander si au final, Homère n'a pas vraiment existé, et si Hésiode ne fait pas référence à un de ses rivaux. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un monstre, une espèce d'hécatonchyre à 100 bras et 100 têtes, un Frankenstein tout fait de briques et de brocs. Je dirais mieux, de la bouillie informe, du potage chaotique, de la purée et du pot pourri, en un mot, et si on passe l'expression, un vrai bordel. Bon, je mets l'emphase de côté. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'Iliade et de l'Odyssée. Alors, un quidam courroucé pourrait me dire « Quoi ? De quel droit oses-tu dire ça ? Du plus grand poète grec qui ait jamais existé ?» Du Saint-Père de la littérature avec un grand L. Et il n'aurait pas totalement tort. Oui, mais voilà, je veux essayer de vous montrer que ces deux monuments de la poésie n'ont en réalité pas la prétendue unité qu'on leur reconnaît généralement. Effectivement, ce sont de grands creusets linguistiques. Ils sont composés de formes dialectiques multiples, de l'éolien, de l'ionique, de l'attique. Si je parle anachroniquement, c'est comme si, aujourd'hui, quelqu'un parlait à un français qui mélange le ch'ti, le breton, le canadien, et même du français médiéval, moderne et contemporain. Ajoutez à cela les différents anachronismes disséminés aux quatre coins de l'œuvre, une seule conclusion vraisemblable à mon sens, c'est la preuve qu'Homère, c'est un beau prête-nom, une belle illusion sans le moindre fond de véracité, et qu'il est, je le dis, absolument improbable qu'un seul homme soit l'unique auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? D'où viennent ces 20 000 vers ? Serait-il donc tombé du ciel ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? En vérité, on devine déjà la réponse au mystère. Nous sommes confrontés à un ensemble hétéroclite, formé de dialectes variés, différents, plus ou moins éloignés, à la fois sur le plan géographique et sur le plan temporel. On estime ainsi que certaines formes d'éolien pourraient remonter jusqu'au premier millénaire avant notre ère, alors que les formes d'attique dateraient à peu près du 6e siècle avant Jésus-Christ. On le voit bien, il est impossible qu'un seul homme en soit l'auteur. La solution, elle se cache dans le mode de composition de l'Iliade et de l'Odyssée, l'oralité. De fait, la poésie épique, très ancienne, est d'abord composée à l'oral, Elle est le fruit de l'assemblage de tout un tas de vieux mythes chantés par des aèdes et des rhapsodes, des sortes de griots. Avec le temps, avec la foule des aèdes qui chantent la guerre de Troie et les périples d'Ulysse, aux quatre coins de la Grèce évidemment, les poèmes évoluent jusqu'au moment où ils sont passés à l'écrit, figés dans la forme que nous leur connaissons aujourd'hui et qui est en fait le résultat de ce long métissage linguistique. Pour nous, aujourd'hui, une seule conclusion, Homère, c'est l'arbre derrière lequel se cache une forêt de poètes qui ont tous contribué à l'élaboration de l'Iliade et de l'Odyssée. Impossible qu'un seul se cache derrière leur composition. Et voilà pourquoi on peut parler d'un monstre, d'une espèce d'hécatonchyre à 100 bras et 100 têtes, un Frankenstein tout fait de briques et de broc, je dirais mieux, de la bouillie informe, du potage chaotique, de la purée et du pot pourri, un vrai bordel, en un mot, un magnifique creuset de littérature, précieux témoignage d'une richesse linguistique perdue.
J'aimais beaucoup la tournure, genre pot pourri et tout machin. J'aime beaucoup le fait d'exagération dans plein de synonymes qui veulent au final dire la même chose, mais qui créent une exagération comme ça, j'aime beaucoup en fait. J'ai juste une question du coup, je sais pas si t'as cité la source, d'où t'as vu tout ça. C'est juste pour savoir si en mode il l'avait genre un peu remarqué lui-même ou quoi, ou alors si c'est vraiment un gars qui avait pondu une analyse.
Oui, ça c'est vrai. Mais parce que quand tu fais la traduction d'Homère avec Alexis,
ça te marque.
Alexis te donne les différentes variantes linguistiques. Et donc tu sais que telle forme, en fait, ça vient de l'éolien, ça vient de l'attique, ça vient etc. Donc tu t'en rends compte comme ça. Et après, sinon, il y a quelques sources. Alors il y a ML West, il y a Richard Janko, Milman Paris s'appelle, et on a aussi G.S. Kirk. Il y a tout un tas d'ouvrages, soit scientifiques, soit de vulgarisation, qui abordent la question. Et en fait, c'est le gros élément, parce que les éléments type biographiques, du style des Homères, on en connaît, il y a des villes qui revendiquent le fait d'avoir eu Homère chez eux. Ou alors on a des vies d'Homère qui sont produites, etc. Mais on dit, oui, mais il y a beaucoup de vies d'Homère. Donc c'est compliqué de dire, celle-ci est vraie, celle-ci est fausse, et ça tend plutôt à démystifier l'existence du mythe homérique. Peut-être, et c'est le problème, peut-être qu'il y en a une qui est vraie. Et le vrai élément qu'on peut utiliser, c'est justement le fait de dire qu'il n'y a pas d'unité ni d'harmonie dans la composition. On peut citer ça. On peut encore citer la question des problèmes anachroniques. Donc par exemple, la présence des chars qui sont utilisés pour combattre, alors que en vérité, on combat à l'époque des palais mycéniens avec des chars. À l'époque du 8e, 9e siècle, en fait, on les utilise uniquement pour les parades et pour le transport. Et on peut encore utiliser un autre élément qui se trouve être le problème des incohérences au sein du texte. Donc par exemple, on a un long passage au chant 23 qui est dédié aux funérailles de Patrocle, et notamment il y a des jeux funèbres qui s'y passent. Et on a ce passage où Nestor va voir son fils qui n'arrive pas à gagner la course parce qu'il a des chevaux trop lents, et très concrètement, il lui fait un tuto triche en lui expliquant à tel endroit il y a une borne, et donc tout le monde se vautre, je dirais, tout le monde se platane au niveau de cette borne, et lui explique comment prendre la borne en trichant un peu pour gagner la course. Et donc, on parle de dizaines de vers, quoi. Problème fondamental, quand la course a lieu, à aucun moment, on ne nous donne cet élément-là qui est clé pour que le fils de Nestor gagne la course. Pourquoi avoir parlé aussi longuement d'un détail anecdotique ? Et donc, de là, on peut dire que, bah oui, il y a des problèmes de composition. De la même manière, il y a le problème entre le ton de l'Iliade et le ton de l'Odyssée, qui sont tellement différents qu'on en vient à croire que ça n'est pas la même personne. Donc on a tous ces éléments-là qui viennent doubler en fait la question des variantes dialectales.
Je pense qu'on va revenir là-dessus, ne serait-ce qu'avec Inès, tes propos, et les miens qui vont revenir un peu là-dessus
aussi.
Et même
toi avec l'Odyssée de ce que
ouais,
tu dis ce
matin. Ouais, c'est ça, exactement.
Mais en vrai, j'ai vraiment appris un truc, parce que autant le fait que l'Iliade et l'Odyssée, ça se ressemble pas du tout, ça on était plus ou moins au courant, ça ok, mais je savais même pas qu'il y avait des incohérences dialectales dans le texte, enfin... Dans un seul des livres.
Du coup,
j'ai appris un truc.
Bah justement, ça fait partie de ces vers oubliés. C'est ces vers oubliés qui sont marqués. Comment on appelle ça ? Une tilde ? Non.
Après, si tu veux juste te limiter à un terme plus générique, tu peux dire qu'il y a un terme diacritique.
Ouais, t'as sorti le mot diacritique et après tu dis plus générique.
Non, mais diacritique, ça va, c'est pas non plus.
Oui. Donc tu peux dire qu'il y a un terme diacritique en marge du manuscrit.
Ouais, c'est ça.
Qui précise il y a un trait devant le vers.
Ouais. Oui, c'est ça, il y a un petit trait du coup devant le vers qui indique que ce vers, selon les bibliothécaires d'Alexandrie, n'était pas considéré comme étant d'Homère, parce que justement il y avait répétition, ou alors le style avait trop changé. Donc même ça, on n'était pas certain déjà à l'époque des bibliothécaires d'Alexandrie.
Mais ça justement par rapport aux répétitions, et ça je l'ai lu dans Le Monde d'Homère, il y a certaines personnes qui ne citent plus vraiment la période. Mais le fait que ça se répète et tout, ils ont considéré ça en fait comme des fautes juste langagières, parce que dans notre tradition écrite française, un mot qui se répète, c'est pas bien. Et du coup, ils avaient proposé des versions justement en enlevant toutes les répétitions qui sont les vers formulaires. Et du coup, bah, ça fait perdre tout l'intérêt oral au texte.
Excuse-moi, là, c'était vraiment pas une question de vers formulaire, c'était vraiment une question, t'as un vers et t'as exactement le même 80 vers plus loin, mais qui renvoie pas à quelque chose, genre qui répète la même action. C'est vraiment des vers, en fait, on ne sait pas trop ce qu'ils foutent là. Quoi.
Oui, mais justement, par rapport à ça, il y a différents types de vers qui ont été enlevés pour différentes raisons, mais justement, toute cette question des vers formulaires qui n'ont pas forcément été compris à une certaine période, parce qu'on n'a pas cette tradition de l'oralité et de la nécessité des répétitions pour les rhapsodes.
Ouais, genre le Achille au pied au piège.
Ouais, voilà, oui, par exemple, ou même ce qu'on voit là, Nestor, machin,
si
dit...
Oui, ouais. Au chant 10, on peut avoir un exemple avec Po si tu paro, li paro ici, e sato cala pedilla. Et ça, ça revient deux fois dans le chant 10.
Ouais, c'est ça.
Et même plus que deux fois d'ailleurs.
Mais même tous les juste. Il dit Nestor Chevalier Jérémie.
Oui, les formules. Comme ça. Ouais. Les formules de réponse, elles sont systématiquement procès IP. Mm.
L'idée qu'Homère a existé et qu'il est l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée n'est pas remis en cause avant le XVIIe siècle. Le premier à remettre en question son existence est l'auteur l'abbé d'Aubignac, un dramaturge, écrivain et théoricien du XVIIe siècle, connu principalement pour avoir formulé et défendu les règles du théâtre classique, notamment sur la règle des trois unités. Dans ses ouvrages « Conjectures académiques » et « Dissertations sur l'Iliade », d'Aubignac s'attaque à la tradition qui faisait d'Homère un auteur unique, affirmant que les deux épopées n'étaient pas l'œuvre d'un seul poète, mais plutôt une compilation de chants populaires transmis oralement par les rhapsodes, qui ont assemblé ces chants pour en faire des œuvres complètes. Les rhapsodes qui étaient des chanteurs itinérants de la Grèce antique, récitant des poèmes épiques à l'image pour nous d'un troubadour. Il avance qu'Homère ne serait qu'une figure légendaire inventée par la tradition sans réalité historique. L'héritage de cette pensée a mené les auteurs qui suivirent à considérer Homère davantage comme un naède, l'équivalent d'un rhapsode à la seule différence qu'un naède compose ses propres poèmes, plutôt qu'un poète avéré. D'Aubignac s'appuie sur l'absence de témoignages fiables sur la vie d'Homère, qui ne sont selon lui pas assez solides pour affirmer que le poète a existé. Il juge également les poèmes homériques pernicieux et amoureux, mais aussi indignes d'être considérés comme des modèles littéraires. Dans cette idée, il reproche aux Grecs d'avoir élevé au rang de chef-d'œuvre des récits qu'il estime grossiers et immoraux. Sa réflexion s'inscrit dans un esprit cartésien. Il refuse d'accepter une tradition sans preuve et préfère une explication rationnelle à la légende d'un poète inspiré par les muses. La vision qu'il développe dans ces deux ouvrages porte la trace du climat intellectuel du XVIIe siècle, marqué par la querelle des anciens et des modernes, où l'autorité des modèles antiques était discutée. La querelle des anciens et des modernes est une polémique littéraire et artistique qui agite la France à la fin du XVIIe siècle. Elle oppose ceux qui défendent l'autorité des auteurs antiques et ceux qui affirment que les écrivains modernes peuvent rivaliser, voire surpasser, les modèles grecs et latins. D'Aubignac, par ses écrits, revendique clairement appartenir au camp des modernes. Ce sont ces écrits qui ont permis à l'abbé d'Aubignac d'être considéré comme un précurseur de la question homérique, un débat qui prendra plus d'ampleur au XVIIIe et XIXe siècles. Malgré son manque de connaissances du grec qui lui a valu d'être jugé excessif, ses arguments ont ouvert la voie à une critique historique et philologique des textes antiques.
Mais du coup, je me demandais, parce que t'as dit qu'il avait des connaissances rudimentaires du grec, à quel point elles sont rudimentaires? Est-ce qu'il lit quand même le texte en grec? Ou est-ce que c'est juste une vieille traduction, si j'ose dire, qu'il a entre les mains, et donc qui se permet de critiquer Homère à partir d'éléments qui sont absolument français?
D'après les sources que j'ai trouvées, qui sont du coup vraiment des... anecdotes, de témoignages, de voilà. Il avait vraiment genre pas du tout de connaissances en termes de grec. Alors, en civilisation, oui, un petit peu. Par contre, en termes de traduction du grec, il a pas du tout regardé le texte original. Il a regardé vraiment une vieille traduction. Donc forcément, une traduction, c'est subjectif parce qu'en fonction du traducteur, du coup, t'auras pas la même traduction. Ça paraît évident. Et le traducteur, il rajoute sa patte, quoi. Donc il a pas du tout le texte original sous les yeux et il aurait pas du tout la même portée s'il avait fait l'effort d'apprendre le grec et du coup de regarder le texte par lui-même. Donc du coup, on peut dire que sa vision et son témoignage sont entre guillemets faussés. Et c'est pour ça justement qu'on l'a dit qu'il était un petit peu excessif et tout. Et en plus, quand je dis faussé, c'est aussi des mots que je reprends parce que dans la querelle du coup des anciens et des modernes, les anciens du coup ils aimaient bien dire que sa vision était complètement fausse parce que justement il avait pas la légitimité d'avoir regardé le texte original. Donc... on peut considérer que son avis il est plus ou moins faux.
Et aussi, justement, par rapport à la querelle, ses propos, ils desservent justement son intérêt, je trouve.
C'était complètement le but, quitte à diffamer...
ça, c'est qu'en soi, foncièrement, il s'en moque de réellement savoir s'il y a eu un ou plusieurs Homères. Mm. Parce que c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt pour lui, c'est juste de montrer que c'est moins bien que ce que la tradition a voulu y accorder. Enfin, montrer moins d'intérêt que ce qu'on lui accorde.
En fait, ce qui est intéressant dans son avis, c'est pas tant le fait qu'il soit faux, c'est que involontairement, il soit plus ou moins juste et que ça remet en question en fait la légitimité, enfin l'existence même d'Homère, Et là où c'est important et où c'est intéressant, c'est que c'est lui du coup qui a lancé ce débat, parce que personne n'avait remis ça en question avant. Et du coup, après, ça a mené à plein d'enquêtes annexes auprès des auteurs du coup modernes et des auteurs après ça. Mais du coup, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ses ouvrages et dans son témoignage, en fait.
Ouais, c'est vraiment l'élément déclencheur. Mais après, ouais, c'est vrai que pour ce qui est d'un point de vue information, les études actuelles sont plus sourcées. Ils sont peut-être plus précises, oui, justement, que ce que lui a pu produire.
Il était clairement motivé par cette querelle, en fait. Tu peux pas avoir un avis objectif alors que ton camp revendique clairement que les auteurs antiques sont dépassés et sont élevés à un rang bien trop haut par rapport à ce qu'ils méritent. Dans ma tête, ça me paraît logique, mais du coup, oui, c'est vraiment pour corroborer ton propos, c'est complètement ça. Il est pas du tout objectif. Et même si, voilà, c'est faussé et qu'il y connaît rien, qu'il a même pas regardé le texte, en réalité, c'est intéressant inconsciemment ce qu'il dit.
Puis c'est intéressant parce que du coup, on est face à un mouvement d'émulation qui est absolument inverse de ce qu'on avait dans l'Antiquité. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, on a cette image absolument idéalisée d'Homère. Donc, par exemple, parmi les Alexandrins, on a Callimaque qui dit de façon très claire que, et je le cite, enfin, je vais utiliser le mot merde, mais c'est lui qui l'utilise en grec en fait, il dit vraiment que tout ce qui n'est pas Homère, dans le genre épique, c'est de la merde. Et ensuite, on a d'autres figures, on a par exemple la figure d'Ennius, Ennius qui inaugure la poésie latine, la poésie écrite en hexamètre dactylique, et il se trouve qu'on raconte, de façon légendaire, qu'il aurait eu un songe où il aurait vu Homère. Et c'est suite à cela qu'il a voulu écrire en hexamètre dactylique. Et on a cette image du songe d'Ennius, du coup, qui inaugure une sorte d'émulation littéraire, mais qui se fait par rapport à un modèle qui est considéré comme ultime. Et pas en disant, non mais, Homère, ouais, c'est pas terrible en fait. Même chose avec Virgile au final.
Ouais, complètement.
Lorsque l'on parle d'Homère et de ses œuvres, il faut savoir que l'une des principales préoccupations a été d'essayer de retracer le voyage d'Ulysse, puisqu'aucun nom n'est jamais vraiment cité. Par exemple, l'île des Cyclopes nomme sobrement l'île des Cyclopes. Trois hypothèses principales se confrontent. Il aurait voyagé en Méditerranée, c'est une hypothèse soutenue par Thucydide qui pense notamment que l'île des Cyclopes correspondrait à la Sicile, de par sa topographie rocailleuse mais prospère, théorisant même que la figure du Cyclope viendrait des crânes d'éléphants nains avec les défenses en tant que dents et le trou laissé par la trompe qui ferait penser à un œil. Une autre hypothèse, soutenue par les théoriciens du globe terrestre du 2e siècle avant Jésus-Christ, voudrait qu'Ulysse ait voyagé hors de la Méditerranée puisque le monde n'était pas encore cartographié entièrement et que, dans les endroits inconnus, il était récurrent de placer des monstres imaginaires. Enfin, la dernière hypothèse, soutenue par les érudits de la bibliothèque d'Alexandrie, voudrait qu'Ulysse voyage dans un monde totalement imaginaire. Cependant, plus en marge, Samuel Butler s'est posé la question d'une cartographie pour l'Odyssée, aussi a-t-il écrit The Odyssey en 1900 en apportant sa propre traduction du poème. Et, selon lui, Ulysse aurait voyagé tout autour de la Sicile. Il soutient aussi cette thèse dans The Authoress of the Odyssey de 1897, et dans cette même œuvre, il se met à soutenir que l'auteur de l'Iliade n'est pas le même que celui de l'Odyssée, que l'auteur du voyage d'Ulysse est une femme, de surcroît une femme sicilienne, et que le personnage de Nausicaa est un doublon biographique de cette Homère féminine. Butler est intimement persuadé que l'Odyssée et l'Iliade n'ont pas les mêmes auteurs, soutenant que le contraste entre les deux œuvres est trop grand pour un seul poète. Selon lui, ces œuvres divergent en style. L'un a un style serré, martial, épique, et l'autre est plus fluide, plus narratif, plus romanesque. Varie aussi en vision du monde. L'un est un monde d'honneur, de virilité, de destin tragique, tandis que l'autre concerne un monde domestique, flexible, optimiste, rusé. Ces œuvres divergeraient aussi en ce qui concerne la manière d'enchaîner les scènes, le traitement psychologique des personnages, les niveaux de connaissance des armes. En bref, l'Iliade est militaire, hiératique, sévère, et l'Odyssée est domestique, ironique, romanesque. C'est cette différence d'univers, de vision du monde, qui fait dire à Butler qu'une femme pourrait être l'autrice de l'Odyssée. Et il pense ça dans une perspective extrêmement sexiste et complètement scandaleuse. Il dit, je cite, et attention la citation est longue et douloureuse, « Les œuvres phénoménales impliquent un artisan phénoménal, mais il existe des femmes phénoménales, tout comme il existe des hommes phénoménaux, et bien qu'il y ait beaucoup de choses dans l'Iliade qu'aucune femme, aussi phénoménale soit-elle, ne pourrait vraisemblablement avoir écrite, il n'y a pas une ligne dans l'Odyssée qu'une femme ne pourrait parfaitement bien écrire. Il y a beaucoup de beauté qu'un homme serait presque certain de négliger. De plus, il y a dans l'Odyssée de nombreuses erreurs qu'une jeune femme pourrait facilement commettre, mais dans lesquelles un homme ne tomberait guère. Et, par erreur, il cite le fait de croire qu'un navire a un gouvernail à chaque extrémité, ou que du bois sec peut être coupé d'un arbre en pleine croissance. Toujours selon lui, l'Odyssée, contrairement à l'Iliade, s'intéresse davantage aux maisons, aux coutumes, aux tissages, aux relations familiales, aux rituels, et beaucoup moins au champ de bataille, à la gloire militaire et aux listes guerrières masculines. Aussi, Butler considère que les descriptions du tissage, de la lessive, de la maison, du rapport entre les servantes, sont tellement précises qu'elles relèvent d'une expérience directe de la vie des femmes, et donc, Comer est une femme. Comme quoi, sous le prisme d'une analyse historico-sociologique, on peut faire preuve d'un sexisme absolu, et que ça passe quand même. Aussi, c'est comme ça que Butler pense que Homer est une femme, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, il soutient que Homer est une femme sicilienne, et qu'elle s'est littérairement représentée avec le personnage de Nausicaa. Il écrit « Il m'a fallu longtemps avant de comprendre que le poème avait été entièrement écrit à Trapani et que l'auteur s'était introduit dans son œuvre sous le nom de Nausicaa. » Butler affirme que la géographie implicite du récit correspond à la côte ouest de la Sicile, autour de Trapani, et que le fait que cette épopée soit écrite par une jeune femme locale expliquerait la place centrale du monde marin, mais pas de la guerre, et les descriptions topographiques cohérentes avec cette région. Et, par jeune femme locale, il entend Nausicaa, ou plutôt l'autrice, qui a fait de Nausicaa sa projection autobiographique. En effet, pour Butler, le personnage de Nausicaa est décrit avec une sympathie, une sensibilité et une intelligence inhabituelles dans la poésie épique grecque. Elle est même narrativement au centre des premiers chants de l'Odyssée, dans une position prépondérante que l'on réserve normalement aux hommes dans l'épopée. Nausicaa est présentée comme une jeune artiste qui a des capacités narratives, une délicatesse psychologique et une sensibilité aux relations interpersonnelles qui reflèterait, pour Butler, la personnalité de la véritable autrice. En outre, la manière dont Nausicaa imagine son avenir, sa réputation et la façon dont elle contrôle sa propre mise en scène sociale paraissent relever d'une vision féminine interne. En bref, malgré tout ce que je viens de dire, il faut se méfier de Butler, puisqu'il a une préconception sur les genres hautement critiquable. Cependant, il est le premier à avoir mis le doigt sur ce qui fait mal. Il n'avait jamais été envisagé qu'Homère puisse être une femme, et c'est aujourd'hui toujours difficile à se le représenter.
Moi, j'ai plusieurs réactions. Déjà, les cadavres d'éléphants, je trouve ça incroyable.
C'est
les squelettes d'éléphants, c'est vraiment une théorie de fou.
Ouais.
Par contre, sur la question de la distinction entre l'Iliade et l'Odyssée, je suis vraiment en désaccord fondamental. Alors, stylistiquement, je suis d'accord sur le fait qu'il y a des variations entre les deux poèmes. En revanche, sur le plan narratif, je pense vraiment qu'il y a un couple Iliade-Odyssée, dans ce sens où l'Iliade, c'est l'expression, c'est l'émanation de ce qu'on appelle la dios boulé, la volonté de Jupiter, la volonté de Zeus, en grec. Et que cette volonté consiste à supprimer tous les héros qui sont conçus dans l'Antiquité comme des demi-dieux pour qu'il n'y ait plus que les dieux et les hommes. Autrement dit, en fait, l'Iliade, d'une certaine manière, c'est ce moment de bascule entre ce qu'on appelle l'âge des héros et l'âge de fer, en gros.
Oui.
Et il se trouve que, justement, il y a cette distinction fondamentale entre l'Iliade, qui est une véritable louange à la gloire militaire. On pense notamment au dilemme d'Achille, qui préfère mourir jeune, mais loué pour l'éternité, plutôt que de vivre anonyme, mais vieux, dans un champ, paisible, etc. Et à l'inverse, dans l'Odyssée, au moment de la Nécuyère, donc au moment où il y a l'évocation des morts, où Ulysse s'entretient avec les héros tombés de l'Iliade, justement, ils lui disent tous « c'est terrible les enfers ». Et à aucun moment, la gloire militaire n'a la valeur qu'aurait une vie paisible, tranquille, etc. Donc je crois vraiment qu'il y a un couple ici qui vient représenter, en fait, un sentiment fondamental de perte, qui, à mon avis, d'ailleurs, est à la base de toute la littérature. Si vous regardez, toutes les œuvres littéraires que vous avez dérivent toutes de ce sentiment de perte. Perte de l'idéal, perte d'un âge d'or, etc. Donc, pour ces raisons-là, je suis vraiment en désaccord sur le fait de dire que il n'y a pas d'unité narratologique ou thématique entre les deux œuvres, quoi.
Entre les deux œuvres, ouais. Et en vrai, je suis complètement d'accord avec toi et je ne suis pas du tout d'accord avec Butler. Mais on ne peut pas nier non plus qu'il y a quand même cette forme de rupture entre les deux œuvres. Pas forcément dans leur continuité narrative, mais plutôt justement dans leur stylistique, dans leur aspect d'aborder les choses, d'aborder le monde. Il y a vraiment de « on sait la guerre » à « c'est un voyage » et les scènes d'action, je les raconte au passé, je les revis comme des souvenirs quand je m'adresse au père de Nausicaa.
Oui, oui, bien sûr.
Butler, rappelle-moi, c'est quelle période ?
Il a écrit son livre en 1897. Il est mort en 1902.
Je trouve que... Alors, je pense que c'était pas son but d'avoir une vision féministe de la chose. Il voulait pas nécessairement s'inscrire dans un procédé, dans une marque féministe, mais je trouve que son propos est quand même vachement avant-gardiste pour l'époque, et que c'est compliqué de se faire suivre sur ce genre de vision, et que surtout c'est compliqué d'avoir les arguments pour corroborer ce genre de vision à cette époque-ci, parce que c'est facile d'imaginer un homme, même une femme, mais un homme c'est quand même plus intéressant de l'entendre parler de ça, c'est difficile de voir un homme avoir ce genre d'argument à cette époque, alors qu'à notre époque, ce serait moins choquant, ou alors on serait moins surpris, parce que c'est une théorie que tout le monde pourrait avoir, et en réalité, c'est pas idiot de remettre en question cet aspect, mais un homme de cette époque qui remet ça en question, là je m'écarte peut-être un petit peu de la question d'Homère, mais d'un point de vue sociétal et féministe, moi je trouve ça très intéressant en fait.
Ah, mais vraiment, ça à savoir, c'est qu'il s'est fait mais défoncer par tous ses camarades historiens. Parce que, oh mon Dieu, Homère est une femme. Mais en soi, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a jamais imaginé. Parce qu'on a Sappho. Sappho qui est super célèbre en tant que poétesse. Et qui est une femme, hein, disons-le. Et qu'on n'arrive pas à se représenter que Homère puisse être une femme. Et même, en fait, Baudelaire, il le fait aussi un peu. Il dit que l'Iliade ne peut pas avoir été écrite par une femme parce qu'il y a des questions de bataille, il y a des questions de tripes, de sang, de larmes. Et ça ne peut pas être une femme. En effet, Baudelaire dérange un peu à cette règle, mais ses arguments ne sont quand même pas super fondés. C'est vraiment sur la question des tâches ménagères, des tâches qu'on incombe à une femme.
Pour rebondir, je trouve ça idiot de dire qu'une femme n'est pas impliquée dans la guerre, sachant que, évidemment que si, quand les cités sont assiégées, quand il y a des prisonniers de guerre, c'est souvent des femmes quand même qui finissent par porter le chapeau, entre guillemets, de toute la mascarade qui est faite derrière. Parce que, ok, quand quelque chose est assiégé, on tue les hommes, mais c'est les femmes qui finissent par payer le prix des viols, de l'esclavage, etc., etc. Donc, de dire que la femme est éloignée de la guerre, je trouve ça un peu contradictoire. Oui, c'est certes, visiblement, c'est pas la femme qui fait la guerre, mais elle est quand même impliquée directement. Voilà, c'est tout.
D'ailleurs, la femme ne fait pas la guerre. C'est... Alors, il faudrait vérifier parce que je connais pas bien l'existence du mythe dans l'Antiquité. Il y a une pièce de Kleist qui a aussi donné lieu à un opéra qui s'appelle Penthésilée et qui fait référence justement à la reine des Amazones. Donc, dans cette pièce, ça se passe pendant l'Iliade. Les Amazones débarquent et on a un revirement total du conflit qui devient un conflit entre Achille d'un côté et Penthésilée, et les Amazones de l'autre. Donc, la représentation de la figure féminine dans la guerre existe et à la période de Butler.
Et puis même si on se base ne serait-ce que sur Athéna, le fait qu'il croit en l'existence d'Athéna, qui est quand même une femme guerrière, alors oui, il y a énormément d'autres attributs qui lui sont liés, mais ça reste une femme guerrière. Donc dire que la femme est éloignée de la guerre, c'est pas très pertinent.
Une femme, présente dans la guerre, et en plus, déesse d'Athènes, d'une cité aussi importante, et puis... Mais du coup, pour revenir à ça... Si, ça reste étonnant qu'il se présente un peu comme une figure féministe malgré lui, mais en réalité, le féminisme existait déjà. Je pense notamment à George Sand, en fait, qui est l'une des premières, si ce n'est la première femme à avoir porté haut et fort le féminisme. Je pense à... Je n'aurais pas le titre exact, mais c'est Déclaration des droits...
C'est Olympe de Gouges.
Putain, ouais, merde, c'est Olympe de Gouges. Je sais pas pourquoi, j'avais vraiment George Sand dans ma tête, mais j'avais vraiment le truc d'Olympe de Gouges avec marqué à la reine, là, genre en mode... Olympe de Gouges. Mais c'est plutôt George Sand, en fait, la première. J'ai un doute.
Plutôt Olympe de Gouges, en vrai.
C'est vraiment Olympe de Gouges, la première, sauf qu'elle a été absolument invisibilisée parce que ils l'ont guillotinée.
Mais je pensais vraiment à elle, je sais pas pourquoi c'est George Sand qui m'est venu dans la tête, en fait. Mais je pensais vraiment à elle dans mon propos.
Justement, parce que Olympe, ça fait que quelques années que le texte a été remis en avant.
Voilà. Donc, du coup, pour reprendre Olympe de Gouges, pendant la Révolution, surtout. C'est là que son ouvrage a vraiment marqué et tout, avec sa lettre à la reine.
Oui et non, dans le sens où vraiment, l'ouvrage à l'époque, il a eu aucun retentissement, parce que c'est une femme qui écrivait, quoi. Et nous, on le perçoit comme ça, parce que on a été amené à l'étudier, etc. Mais en soi, à l'époque, juste c'est un écrit qui est passé, c'est une femme qui l'a fait, elle veut les mêmes droits que nous, c'est mort, on la guillotine, et puis basta, on fait passer à autre chose, hein.
Je me suis mal exprimée. Ah, c'est plutôt dans ce sens-là que je voulais le dire, mais je pense que je me suis mal exprimée. C'est que pour nous, c'est retentissant que c'est important du coup pour la période de la Révolution, parce que du coup, le texte est vraiment d'actualité. Et oui, à l'époque, ça n'a pas fait tellement de bruit que ça. Je l'ai très mal dit.
Après, Samuel Butler, il est britannique. Je ne pense pas qu'il en avait vraiment quelque chose à faire de l'arme de Gouges et tout ça. Bon, vraiment, il n'y a pas de perspective féministe, comme tu disais, Inès. C'est vraiment et si, parce qu'elle parle de tâches ménagères. Et si c'était une femme? En fait, c'est vraiment dans cette perspective-là.
Ouais, en fait, c'est un peu genre le fond sexiste de son propos qui, aujourd'hui, nous le fait passer pour féministe parce que avant-gardiste. Mais en soi, non, du tout. Il a juste envie de critiquer la femme une fois de plus.
Ah, c'est pour ça que je disais que, genre, en mode, il voulait pas du tout s'inscrire dans une portée féministe. Et
non, clairement pas.
Et que voilà,
inintentionnellement.
Inintentionnellement, merci beaucoup. Il s'inscrit, du coup, dans une portée féministe, mais qu'à la base, son propos est complètement sexiste.
Je trouve justement qu'il y a quelque chose de très intéressant dans la question qu'on vient d'aborder là. Alors certes, je trouve que littérairement parlant, en termes de critique, d'analyse de l'œuvre, l'idée que ce serait une autobiographie de Nausicaa, je trouve ça super intéressant, même si très peu probable. Par contre, on pourrait se demander si il y avait des aèdes ou des rhapsodes qui étaient des femmes. Est-ce que ça existait? Et donc là, oui et non. D'une part, je pense au rôle des griots en Afrique qui, à mon avis, est plutôt similaire en fait au rôle des Aèdes. Hein, on a quelque chose de transmission, de l'oralité, du mythe, qui vient d'une époque absolument intemporelle qu'on ne connaît plus. Et il y a des griottes, donc pourquoi pas. Dans le même temps, le théâtre antique est un théâtre qui est absolument masculin. Même les rôles féminins sont joués par des hommes qui ont certes des masques et qui sont déguisés, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une exclusion de la femme du monde théâtral. Donc je trouve que la question est intéressante et on pourrait se poser la question au final.
Parce que c'est vrai qu'en général, dans les traditions orales, c'est quand même relativement mixte, parce que ça fait partie de l'éducation de tous les jours. Même nous, quand on nous raconte des contes quand on est enfant, il n'y a pas d'importance sur qui le raconte. Donc c'est vrai que ça pourrait être possible. Après, est-ce que ça irait de pair avec justement le rôle qu'est censée avoir la femme traditionnelle en Grèce, quoi ?
Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté où les aèdes sont très itinérants et la femme est plutôt campée au gynécée, donc oui, c'est compliqué. Mmh. Ouais.
Ou alors ça ferait qu'il y aurait une catégorie vraiment encore à part d'un rôle féminin potentiel. Mais c'est vrai que si elles n'ont déjà pas le droit de s'investir dans le théâtre, je les vois mal avoir le droit de faire le tour de la Grèce pour conter des histoires. Mais en même temps, dans la transmission orale, pour moi, c'est évident que c'est mixte.
À Lesbos, peut-être, avec Sappho, pour le coup, où il y a plus de... Enfin, je connais mal la chose, mais on suppose qu'il y a plus de liberté. C'est pas invraisemblable.
Puis ça m'étonnerait même que les gens écoutent une femme qui parle fort dans la rue, quoi.
Après, peut-être qu'on est justement plus sur ce côté de le travail d'aède et de rhapsode, c'est fait que par des hommes, mais les histoires contées, ne serait-ce que le classique, comme tu disais, Noémie, de rester au coin de la cheminée et tout, là peut être lu par des mères ou par des femmes esclaves qui s'occupent des nourrissons. Là-dessus, c'est peut-être aussi par là que se fait cette transmission orale, mais de là à dire que du coup cette transmission devient un métier, ce n'est pas dit, quoi.
Oui, certes, mais à l'instant où on considère que Homère, au final, c'est le nom, l'hyperonyme qui englobe tous les individus qui ont récité l'Iliade et l'Odyssée dans leur vie et qui ont contribué à une évolution, à un métissage linguistique dans le texte, à partir de ce moment-là, n'importe quelle personne qui récite l'Iliade, qui récite l'Odyssée, on peut la considérer comme une émanation d'Homère parce qu'elle participe à cet héritage commun qui, au final, est l'émanation de la Grèce dans son entièreté, sur le plan linguistique, mais peut-être aussi sur le plan de la mixité entre hommes et femmes. Même si c'est pas dans un cadre officiel qui est celui des aèdes, et que juste c'est de la récitation qui se fait dans le domaine de la maison, il n'empêche qu'au final, les femmes pourraient très bien être considérées dans cet ensemble qui s'appelle Homère, quoi.
De toute façon, dans la transmission, et qu'importe ce qui est transmis au final, c'est évident que chacun a son rôle à jouer, et que vouloir exclure une partie de la population, ça revient à biaiser finalement le vrai symbole de l'oralité et de ce besoin de transmettre...
Mais du coup, avec tout ça, on peut quand même se poser la question. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on a conservé cette image d'un Homère aveugle, d'un Homère qui a existé, d'un Homère homme, si je puis dire?
Effet du Père Noël, hein.
Oui, c'est complètement ça.
Ouais. Que ça casserait le mythe, se rendre compte qu'il n'existe pas, ouais.
De toute façon, là, c'est ce qu'on est en train de faire.
Oui, de toute façon, c'est
oui. Exactement on est vraiment en train de dire à tout le monde, il n'existe pas.
Mais que pour notre conscience personnelle, enfin pour notre plaisir personnel, on aimerait bien quand même continuer de croire qu'il a vraiment existé.
Comme le Père Noël.
Mais en fait, c'est exactement ça.
Ouais, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point, genre qu'il y a matière à se poser la question et qu'il y a matière à remettre en question son existence, parce que c'est pas les doutes qui manquent, on a fait que le montrer. Et les auteurs qu'on a cités ont fait que le montrer aussi. Il y a matière à se douter, mais en même temps, pour l'histoire et pour l'héritage, on aimerait tous que ce soit un génie qui nous ait livré ça. Surtout que l'histoire autour est tellement épique, pour pas faire de mauvais jeu de mots, que l'histoire d'un poète aveugle qui nous transmet ce genre d'histoire, enfin...
Mais tu vois, je suis pas forcément d'accord. Je trouve ça plus impactant, justement, déjà, d'un point de vue de la recherche, de pouvoir se dire qu'il n'y avait pas qu'un seul Homère. Ça ouvre un panel de possibilités immenses pour tout réinterpréter et pour pousser encore plus loin des problématiques. Et aussi, même d'un point de vue, comme tu dis, symbolique et culturel, de se dire qu'il y avait plusieurs Homères et que justement, il y a un ensemble qui a réussi à se coordonner et à créer, même sans forcément être en contact, cette tradition orale, je trouve ça plus impressionnant qu'une seule personne dans son coin qui aurait écrit tout.
Ouais, je comprends.
Ouais, c'est super intéressant, ça. C'est vrai que j'en avais déjà parlé, comme ça. Et justement, ce que je disais, c'est que, et je fais référence à un propos qui était celui d'Alexandre Astier, qu'il avait tenu il y a quelques années, sur la question de l'IA, mais ça s'applique à Homère. Et il disait que ce qui était fascinant dans l'art humain, c'est justement le fait de se dire qu'il y a une personne derrière, il y a une volonté opérante, il y a une intention, en fait, qui a composé une œuvre. Et justement, il y a ce côté où, si on fait le deuil d'Homère, mais on n'est pas face à quelque chose qui a une intentionnalité, on est face à quelque chose qui, au final, est un peu sui generis, Et d'une certaine manière, c'est plus difficile, c'est on tue en fait. On tue le côté fascinant de « il y a un génie qui a réussi à composer 20 000 vers ». Et pour le coup, à cet égard-là, je pense qu'on est tributaire de la conception romantique, en fait, du génie littéraire qui est origine. On est tributaire de Victor Hugo, qui au final, on pourrait très bien se dire que Homère peut être quelqu'un qui a existé dans la mesure où Victor Hugo existait, quoi. Il y a des géants de la littérature qui font que on peut croire à l'hypothèse d'un être qui à lui seul est origine de toute cette œuvre-là. Dans le même temps, on a Virgile aussi. Virgile, l'Énéide, c'est grosso modo le même nombre de vers que l'Iliade. Donc ça veut dire que c'est parfaitement faisable pour une seule personne. On est à un temps où certes, on passe les œuvres à l'écrit, mais on ne connaît pas la lecture pour l'instant. En tout cas, la lecture silencieuse. Donc, en l'occurrence, c'est assez vraisemblable de dire qu'Homère a existé pour toutes ces raisons-là. Mais il y a ce côté où, oui, on veut croire au héros, au géant de la littérature qui a existé et qui a tout composé, quoi. Par contre, à l'inverse, se dire que Homère n'existe pas et qu'on est face à une création qui a sa vie propre, qui se développe un peu comme un organisme, comme une plante qui évolue toute seule, en fait, avec l'évolution linguistique de la Grèce. Je trouve ça assez génial de se dire que, mais voilà, on peut créer comme ça, de façon inconsciente quasiment. Et donc, en fait, que l'Iliade et l'Odyssée, c'est la représentation de l'esprit grec au final. C'est la représentation de la pensée grecque, parce que c'est l'émanation de quasiment toute la langue grecque, jusqu'au 6e siècle, au moment où l'Iliade est passée à l'écrit par les Pisistratides. Donc, c'est un condensé de 600 ans d'histoire littéraire, d'histoire linguistique. C'est un esprit, c'est des traditions, des coutumes, et tout ça, je trouve ça assez génial, d'avoir comme ça une porte ouverte sur l'imaginaire commun, l'imaginaire linguistique de toute une civilisation au final.
Non mais totalement.
Mais vraiment,
c'est quoi les Pisistratides? C'est Pisistrat quand il a souhaité mettre à l'écrit l'Iliade et l'Odyssée, et que du coup c'est un peu la version figée qui est restée.
D'où Pisistratides, ok.
Mais justement, je trouve aussi que c'est ça qui est encore plus fascinant que l'idée d'un génie. Parce que c'est un peu triste à dire, mais en fait, l'idée d'un génie, elle est même presque trop vue et revue. On a trop vu, justement, ce mec un peu torturé, avec son spleen, qui est là, « Oh mon Dieu, la vie est difficile, mais je vais créer une supérieure qui va rester à postérité. » Tandis que, justement, comme vous disiez tous les deux, l'idée qu'on a plein de gens qui ont perpétré une tradition orale en apportant leurs pattes à chaque fois, en modifiant, en ajoutant des choses, donc toujours dans le but d'avoir une histoire cohérente, qui soit contée, qui plaise à tous, pour qu'au final, toutes ces histoires soient rassembler ensemble pour qu'on ponde ensuite un texte qui a parcouru mais des siècles, si bien qu'on arrive encore à les voir aujourd'hui, qui ont été traduits mais dans des tonnes de langues. On trouve encore des papyrus et des parchemins de traduction de l'Iliade et l'Odyssée en arabe. C'est des trucs mais qui sont absolument fascinants. C'est une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, qui est restée, et en fait c'est le meilleur symbole qu'on a eu du passage de l'oralité à l'écriture, à travers un prisme toujours de transmission et de laisser à la postérité ce qu'on sait, ce qu'on connaît.
Et même de manière très simple et presque même niaise, je trouve que c'est vraiment un témoignage très beau de juste l'unité humaine qui peut se créer autour d'un texte au travers différents dialectes, différents peuples, etc. Et qui témoigne justement, comme tu disais Antoine, d'un état de la Grèce à une époque qui s'étend très loin. Enfin, je trouve ça juste beau. Je trouve que le fait que plusieurs personnes aient été impliquées dedans, ça a un impact vraiment plus fort et plus humain que juste une personne un jour qui s'est dit « Tiens, je vais écrire l'Iliade et l'Odyssée.
» C'est ça. Et puis en plus, l'héritage que ça a eu dans le sens que on s'est moins intéressé aux traces, aux ruines qu'on avait de la Grèce antique pure et dure. On a plus voulu retrouver justement des choses qui existent dans ces mythes. Les recherches pour la guerre de Troie.
Schliemann.
Oui, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est Schliemann. Le mec, c'est un énorme taré.
Mais c'est un énorme taré qui a trouvé énormément de choses qui ont permis, après coup... Je dis pas qu'il a trouvé trois, mais il a trouvé énormément de choses qui ont permis de mettre sur des pistes d'autres recherches et d'amener ça...
En vrai, je serais plus nuancée. Il a trouvé des choses, mais il les a fantasmées.
Mais totalement.
Oui, mais du coup, pour moi, c'est vraiment... Il a pas trouvé, il a fantasmé. Il a pris des objets, il a fait « Oh, c'est ça !» sans faire gaffe à la datation, sans faire gaffe à tout ça. Il a épousé une femme qu'il a habillée de tous les vêtements pour se dire « J'ai ma propre Hélène de Troie. »
Il lui a mis les bijoux d'Hécube.
Oui. Enfin, en tout cas, les bijoux qu'il associe à Hécube.
Oui, qu'il a associé à Hécube, pardon. Mais puis, leurs enfants s'appelaient Andromaque et Agamemnon parce qu'au moins, ça réunissait les Troyens et les Grecs. Mais justement, enfin... Dans ses recherches, certes, il était certainement un peu extrême et pas la méthode qu'on emploierait aujourd'hui et pas la méthode qui est la meilleure finalement. Mais ça revient à ce que je disais, il a permis de créer ces voies justement d'intérêt et de recherches plus poussées pour s'avancer dans ces sujets-là.
En fait, c'est ça. Ce sont ces mythes, ce sont ces transmissions qui ont donné envie de découvrir l'histoire. Et c'est ça vraiment qui est fascinant. Quand il y a des hommes aussi qui se sont dit « je vais refaire le trajet d'Ulysse », alors que, comme on a dit un peu plus tôt, on le connaît pas. On ne sait même pas s'il était sur une terre qui existait vraiment. Et ils se sont dit « cette grotte, forcément, c'est la grotte des Cyclopes ». Alors que quand elle est datée, cette grotte, elle a à peine 200 ans à tout casser. C'est vraiment, c'est tout un fantasme qui est né, mais justement, qui a donné envie à ces personnes, à ces hommes, à ces futurs archéologues avec peu d'éthique, de rechercher de l'histoire. Et en fait, justement, comme tu disais, a posteriori, ça a ouvert la voie, parce que maintenant, on a des historiens qui reviennent sur ce qui a été dit, mais qui justement, qui ont cette volonté d'étudier l'histoire à travers ce prisme-là aussi. Et il y a quand même toujours ce désir, que les historiens ne se l'avouent pas, de trouver Troie. C'est un peu l'équivalent de trouver l'Eldorado.
Oui, après, sur ce sujet-là, je trouve que ça intègre tout un tas de références qui sont imaginaires, Homer, le monstre du Loch Ness, toutes ces choses-là. En vérité, c'est fascinant aussi longtemps qu'on essaye de percer un mystère qui n'est pas soluble. En fait, il faut une quête permanente qui permette justement de vivre dans cet imaginaire permanent et d'avoir cette tension constante entre l'imaginaire, l'irréel, ce qu'on ne peut pas atteindre, et en même temps, justement, ce qui potentiellement est à portée de la main. Et donc on est quelque part entre le rêve et la réalité, entre la folie et la sanité d'esprit, et c'est ça qui est génial en fait.
Totalement.
Vous êtes en train de me faire changer d'avis.
Par rapport à quoi ?
Parce que je disais tout à l'heure que j'aimais le mythe, ou du moins je pense que j'ai le fantasme de l'histoire, ou du moins du mythe, du vieil homme aveugle, sage et presque omniscient, qui livre en fait cette histoire et qui... presque ferait exprès de faire l'effort d'utiliser plusieurs dialectes, soit pour mettre dans le flou, soit dans un but d'inclusivité ou alors de richesse, de culture. Mais en fait, je trouve ça encore plus intéressant, ce que vous me dites, que ce serait bah, du coup les rhapsodes avec leurs dialectes, leurs cultures diverses et leur expérience, car c'est évident qu'une expérience, ça va influencer ta manière de composer. Et en fait, c'est ça la richesse de ces épopées. C'est la richesse de culture, la diversité et l'inclusivité que ça crée. Mais du coup, je suis d'accord avec vous.
Après, pour le coup, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir à choisir. C'est-à-dire que, pour moi, toutes les interprétations qu'on peut faire du texte, sur le point de vue littéraire, et donc toutes les interprétations qu'on peut avoir vis-à-vis de la figure d'Homère, on peut très bien les laisser coexister et vivre ensemble. Et c'est aussi ça qui fait le génie du texte. C'est-à-dire qu'il y a un mystère profond. Et toutes les hypothèses sont aussi géniales les unes que les autres. Si c'est Nausicaa qui se met en scène dans son propre texte, c'est génial. Si c'est un vieil homme sage, c'est génial. Si c'est l'esprit grec qui s'exprime par l'évolution et des siècles de transmission, c'est génial. Dans tous les cas, c'est génial. Et il y a même quelque chose d'encore plus fort parce que toutes ces hypothèses coexistent entre elles. Et au final, c'est la notion de creuset littéraire. C'est-à-dire qu'on a un espèce d'alliage de tous les métaux et on a cette espèce d'or en fusion mêlé à de l'argent, à du bronze, à tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui fait le génie absolu du texte et c'est pour ça qu'on est toujours aussi fasciné par ça.
Ouais, et clairement, je pense que si un jour on a la réponse à toutes ces questions, ça enlèverait une certaine saveur au texte dans le sens où les autres possibilités deviendraient caduques. Alors que c'est dommage de se refermer après avoir passé des années et des années à tester plein d'hypothèses. C'est pour ça que ouais, je te rejoins là-dessus sur le fait que c'est plus intéressant et c'est plus merveilleux, entre guillemets, de maintenir toutes ces idées et ça rajoute vraiment un goût, enfin une saveur vraiment à Homer. Peu importe qu'il soit tout seul ou plusieurs.